Parmi les revendications de la communauté LGBTIQ+, les questions liées aux parentalités reviennent régulièrement. Pour essayer de comprendre les divers enjeux que cela recouvre, j'ai interrogé Joachim. Comme tout le monde ici aujourd'hui, je le laisse se présenter.
Je m'appelle Joachim, j'ai 43 ans, je suis un homme trans, c'est-à-dire que j'ai été assigné femme à la naissance et que donc j'ai fait une transition vers le genre masculin. Et je suis le cofondateur d'une association qui s'appelle Outrance, qui est une association transféministe d'autosupport créée par des personnes trans, pour des personnes trans. Et je suis papa d'une petite fille géniale de 8 ans et demi. Et voilà, je dis ça parce que je crois qu'on va parler de transparentalité.
Et il n'a pas tort. Quelques années de militance qui ne se résumeront pas ici en quelques minutes, je vous propose quelques morceaux choisis pour approfondir ce qui nous intéresse ici, les transparentalités.
Tu vois, le principe de militance dont je te parlais tout à l'heure, de mettre les revendications des plus précarisés en avant pour que ce soit la locomotive qui puisse faire obtenir des droits pour tout le monde, c'est un principe qui est très peu mis en œuvre et je pense qu'on avancerait plus vite si on mettait vraiment en première ligne je sais pas, les personnes trans, racisées, travailleuses du sexe, par exemple. Vraiment, voilà, les gens qui sont à des intersections difficiles, en réalité, parce que si ces gens-là obtiennent des droits, tout le monde obtient des droits. Et il y a un truc, en fait, super important que j'ai pas évoqué encore, c'est que avant 2016, en fait, les tribunaux français, pour accorder le changement d'état civil aux personnes trans, exigeaient des personnes qu'elles soient stérilisées. C'est-à-dire que l'argument officiel, c'était pour garantir l'irréversibilité de la transition. Donc, en gros, on voulait pas se retrouver avec des personnes qui deviennent des hommes, qui regrettent, qui redeviennent des femmes, ce qui, en réalité, arrive de manière vraiment hyper marginale. Je peux pas dire que ça arrive jamais, mais voilà, c'est les parcours des gens, mais c'est vraiment complètement marginal. Je veux dire, à un moment donné, il faut se rendre compte de ce que ça représente une transition, quoi. On met dans la balance absolument tout ce qu'on a. On met sa santé, on met son identité, on met ses liens avec ses amis, sa famille, son travail, son argent, son temps, son énergie, on met tout ce qu'on a, en fait. Donc, je vois pas à quel moment on peut juste imaginer que les gens vont faire ça à la légère. C'est vraiment, cette idée, je suis toujours choqué par ça, parce qu'en fait, les gens, on dirait que la plupart des gens pensent que, ah oui, mais tu vas transitionner, mais si jamais tu regrettes, comment tu vas faire? Mais en fait, on réfléchit bien, en fait, avant de mettre toute son existence dans la balance sur un choix qui est pas facile et dont, en réalité, on ne connaît pas le résultat, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas si on va rester en bonne santé, puisque même les médecins ne le savent pas. On ne sait pas à quoi on va ressembler, on va vivre une deuxième adolescence. Enfin, alors la plupart du temps, c'est réjouissant et c'est génial, mais c'est quand même un saut dans le vide un peu vertigineux, quoi. Donc je trouve ça pas mal de poser ça et de dire que vraiment on était dans cette contrainte, dans ce chantage administratif avec des tribunaux, en fait, qui nous disaient, voilà, si vous n'êtes pas stérilisé, si vous n'êtes pas stérile, on ne vous donnera pas vos papiers d'identité. Il y a peu de gens qui le savent, en fait, parce que c'est-à-dire qu'on a un problème de passation de notre propre histoire. Et il y a même certaines personnes trans qui ne savent pas ça, en fait. Moi, j'ai transitionné en 2008. À l'époque, il y avait un peu deux écoles, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les gens qui acceptaient ce chantage et qui se soumettaient, en fait, à ces opérations parce que, ben, à un moment donné, si t'as pas tes papiers d'identité et qui correspondent à ton apparence et au genre que tu revendiques, ben, toute ta vie est super compliquée. Ne serait-ce que pour trouver du travail, ne serait-ce que n'importe quelle démarche administrative, partir en voyage, enfin, retirer un colis, enfin, le quotidien devient tout est compliqué. Et puis tu avais aussi des personnes qui étaient en résistance contre ça et qui se disaient, bah non, on va pas mettre en jeu notre santé pour des opérations qui ne sont pas nécessaires. On a des corps qui fonctionnent, qui sont en bonne santé, on va pas prendre le risque de se faire opérer juste pour avoir des papiers d'identité, juste parce que en réalité, ça obligerait un système en place à se questionner lui-même, quoi. Parce que ce qui se passe, je suis un peu obligé d'expliquer ça, mais la résistance de l'administration et de l'État et de l'État civil, en fait, à accorder ces changements libres et gratuits et simplifiés, en réalité, c'est pour protéger un système qui est basé sur l'hétérosexualité, parce que l'hétérosexualité, c'est pas seulement une orientation sexuelle individuelle, une préférence anatomique ou une préférence sentimentale, c'est aussi un régime politique. Et c'est un régime politique qui prend comme postulat par défaut que les gens vont être automatiquement cisgenres et que les personnes cisgenres vont automatiquement être hétérosexuelles, qu'un homme va aller avec une femme, qu'une femme va aller avec un homme, et qu'ils vont faire des enfants, et que le foyer va se fonder comme ça. Et toutes nos lois, toutes nos institutions, en réalité, sont basées sur ce rapport au monde, sur cette idée-là, sur cette idéologie, en fait. Et tout ce qui va dévier, en fait, de ces cas de figure, eh ben, va être considéré comme une anomalie, et comme... Alors, au choix, quelque chose à corriger, quelque chose à contrôler, quelque chose à contraindre, en tout cas. Je jette pas la pierre aux personnes cisgenres, hétérosexuelles ou quoi. Je cherche juste à expliquer, en fait, pourquoi les personnes trans, dans leur existence même, portent une révolution, en fait. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi il y a cette résistance à accorder un état civil à des personnes juste qui le réclament et qui, voilà, qui... En réalité, ça pourrait ne pas poser de problème, en fait. Mais voilà, encore une fois, il y a une résistance sur la filiation, un homme qui va porter son propre enfant. Ah oui, il faut préciser un autre truc, je pense, qui est super important, c'est que toutes les personnes trans ne souhaitent pas d'opération génitale et qu'il y a énormément, en réalité, de personnes trans qui conservent leur appareil reproducteur. Donc il y a plein de personnes trans qui font des enfants de manière complètement naturelle et qui se retrouvent voilà, dans des problématiques très compliquées parce qu'une fois qu'on est un homme à l'état civil... et qu'on tombe enceint et qu'on porte ben, son enfant, eh ben, il faut qu'on puisse être reconnu comme père de son propre enfant à l'état civil, et il faut que la filiation puisse s'établir de fait comme ça. Et on ne va pas se retrouver avec une personne qui a un état civil d'homme, qui tombe enceint, qui accouche de son enfant, et qui se retrouve mère de son enfant, ça n'aurait aucun sens.
Maintenant que ces mises au point sont faites, on va revenir à la petite fille géniale de 8 ans et demi. J'ai demandé à Joachim s'il abordait avec son enfant ses questions de genre et son parcours.
Alors ouais, on parle pas mal en fait de ces sujets-là et d'une manière où moi j'ai été pris de court, j'ai été vraiment surpris parce que voilà, moi j'ai transitionné en 2008, ma fille est née en 2013, donc voilà ma transition, c'est évidemment ça fait partie de moi et tout, mais je voilà, j'avais déjà quitté Paris, j'étais déjà un peu loin des milieux militants, etc. Et je pensais, moi, qu'on aborderait peut-être le sujet de ma transition, le sujet de la transidentité, bah, je sais pas, maintenant, quand elle aurait 7 ans, 8 ans, enfin, j'avais imaginé ça, en fait. Et en fait, c'est elle qui a mis les pieds dans le plat, mais pratiquement, dès qu'elle a su parler, en fait. Non, mais c'est impressionnant, franchement, j'étais vraiment surpris. On était en voiture, pour la petite histoire, et elle était toute petite, elle était derrière, on était tous les deux, je crois que je l'amenais, je sais plus si c'était à la crèche ou à la maternelle. Enfin, vraiment, elle était toute petite. Et vraiment, de but en blanc, elle me dit, mais papa, mais au milieu de rien, hein, enfin, elle me dit, mais papa, en fait, est-ce qu'on est bien d'accord qu'une fille, ça peut pas devenir un garçon, et qu'un garçon, ça peut pas devenir une fille? Donc, autant dire qu'on a frôlé l'accident de peu, quoi. Et j'étais hyper pris de court, et je lui ai dit, bah écoute, ça dépend, dans certains cas, ben, si, je pense qu'on peut dire que c'est possible. Et je pensais qu'on allait s'arrêter là, et en fait, elle met du tac au tac, elle m'a dit « Ah ouais, et comment tu le sais ?» Donc du coup, bah voilà, j'étais un peu coincé. Je lui ai dit « Bah écoute, je le sais parce que c'est ce que j'ai fait. » Et elle m'a dit « Ok. » Et on en a plus reparlé pendant quelques temps. Et puis en fait, c'est revenu comme un sujet, mais vraiment comme un sujet comme un autre, quoi. C'est-à-dire qu'au final, elle m'a demandé « Mais en fait, mais du coup, comment t'as fait ?» Donc bah, je lui ai expliqué un petit peu comment ça se passait, comment on pouvait aller voir des médecins, enfin un petit peu, voilà, en simplifiant évidemment pour un petit enfant, mais elle me demandait ça comme elle pouvait me demander, j'en sais rien, comment on fait la glace au citron ou pourquoi il y a des marées dans l'océan, enfin j'en sais rien, comme toutes les questions, c'était une question voilà comme une autre et donc on en parlait comme un sujet comme un autre et puis ça s'est complexifié au fur et à mesure. Parce que, ben voilà, comme elle grandissait, on pouvait aborder le sujet de manière un peu plus nuancée ou un peu plus complexe. Et en fait, ouais, c'est des sujets dont on parle et ça nous amène à parler, ben ça nous amène à parler féminisme en fait, parce que du coup, tout ça c'est très lié. Et elle a eu vraiment aucune difficulté à comprendre les enjeux, à comprendre mon histoire, à comprendre sa propre histoire aussi à elle, parce que du coup. Je l'ai pas dit, mais cet enfant, enfin ma fille, en fait, je l'ai conçue avec une femme cis. Donc c'est sa mère qui l'a porté. On a fait une PMA à l'étranger, puisque de toute façon, moi, je fais partie des gens qui ont été stérilisés avant 2016, parce que j'ai fait ce choix-là, qui était un choix un peu douloureux, mais moi, j'étais dans cette urgence à l'époque de, voilà, j'avais besoin d'avoir mes papiers, j'avais besoin de travailler, j'ai fait ce compromis. Donc bref, voilà. En tout cas, moi, mon histoire, notre histoire avec ma fille, c'est qu'on a fait une PMA, que c'est sa mère qui l'a portée, que du coup, moi, je l'ai reconnue. Donc mon état civil était changé, je pouvais la reconnaître sans problème. Donc ouais, on parle de tout ça de manière hyper, hyper sereine. Le truc que je crois qu'elle a eu plus de mal à comprendre, c'est que moi, j'ai essayé de la prévenir aussi que cette histoire-là, elle n'était pas commune, que tout le monde n'avait pas la même histoire, que les personnes trans, globalement, étaient très méconnues, que nos problématiques sont très, très méconnues, qu'on est très invisibles, et que les gens peuvent être maladroits, incrédules, voire carrément hostiles, et qu'il fallait qu'elle s'y attende, en tout cas, si elle décidait d'en parler, je sais pas, à l'école, à ses potes, à ses instits, je sais pas, parce que moi je veux pas poser de contrôle sur sa parole, mais je trouve ça important de la mettre en garde quand même sur la transphobie qu'elle peut rencontrer, quoi. Donc au final, elle en parle avec beaucoup de discernement et avec parcimonie autour d'elle. Et puis je lui ai expliqué aussi que ça fait partie de son histoire, mais c'est avant tout mon histoire à moi. Et j'aime bien quand même pouvoir avoir un petit peu la main sur qui c'est quoi et comment, parce qu'il y a tellement de choses à expliquer et il y a tellement peu de représentations accessibles, pertinentes, que j'aime bien expliquer les trucs moi-même aux gens, en fait. Et j'aime bien que les gens puissent me poser leurs questions. Je trouve ça plus safe, plus tranquillisant et plus confortable pour tout le monde.